Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie expliquée par mon père, en présence du dit père et de sa très belle veste autrichienne. Je tiens à le dire à nouveau, ça n'est pas une veste col Mao. Et si vous en cherchez des comme ça, vous pouvez en trouver, je peux donner l'adresse, au Petit Matelot à Paris, qui ont des très jolies coupes et ma foi, ça dure très longtemps. Donc,
C'est au-dessus de l'Arc de Triomphe, dans la Grande Armée à gauche.
Voilà, là où il y a les magasins de motos.
Voilà,
les pièces détachées de moto. Alors aujourd'hui, figurez-vous qu'un admirateur nous a envoyé cette ravissante photo où on peut voir donc Margaret Thatcher déguster un thé avec notre ami Ronald Reagan.
Ils se trouvent très bien l'un de l'autre. Et quand on voit, ils se regardent avec affection, à mon avis, ils trouvent que Thatcher trouve que Reagan, quand même, c'est un bel homme. Elle était très sensible aux beaux hommes. Et puis Ronald Reagan, il trouve que Margaret Thatcher est...
Elle est au poil. Et tu pourrais peut-être raconter cette histoire horrible de Margaret Thatcher avec les pays de l'OPEP.
Ah oui, non, mais je ne vais pas la raconter. Non. Mais je peux raconter une autre. Je peux raconter une autre, c'est que c'était un conseil de ministre en Angleterre. Et il y a le cabinet, vous savez, donc le cabinet vote. Et tout le cabinet, ils étaient 12, je crois, vote pour, contre une mesure. Et Margaret Thatcher vote pour. Et elle dit, nous sommes dans une situation difficile parce qu'il y a une situation de blocage 1 contre 12 et je crois que je vais l'emporter. Donc vous voyez, c'était quand elle avait une idée dans la tête, elle ne l'avait pas dans les pieds, c'était bien.
Moi, l'histoire que j'aimais, c'était celle où elle allait déjeuner avec tout son staff autour d'elle. Et donc elle dit, écoutez...
Tout le cabinet
autour d'elle, donc le cabinet de ministre et ainsi de suite. Et elle décide de prendre le plat du jour et la personne se tourne vers elle et lui dit
un steak.
Elle dit I'll have a steak et la personne lui dit and for the vegetables et elle dit they'll have steak also.
Pour les légumes aussi ils auront du steak. Donc non, c'était une personne absolument admirable.
Ça, c'est l'humour anglais. Enfin, en tout cas, donc, cette très jolie photo nous vient de M. Sacha Delmas, que nous remercions. Alors, figure-toi qu'elle avait été prise à Cancun en octobre 1981, cette photo, par Jean-Claude Delmas, qui était photojournaliste à l'AFP. Et donc, on peut retrouver beaucoup de photos insolites sur ce site, qui est www.jeanclaude, le prénom tout attaché, -delmas.com. Si vous voulez aller voir des photos insolites.
Oui, parce qu'il y a des photos de l'AFP, il a dû faire des photos dans des endroits où peu d'entre nous vont aller. Quoi.
Et puis non seulement ça, mais tu sais, à l'époque, on te permettait, moi je me souviens, ne serait-ce que Wimbledon, à l'époque, tu allais à Wimbledon, tu pouvais littéralement toucher l'épaule des gens qui jouaient. Maintenant, tu as des cages en verre, tu es 6 kilomètres plus loin. Et même remarque de tout ce qu'on visitait. Quand on allait voir la Chapelle Sixtine, on pouvait voir la Chapelle Sixtine. Maintenant, il y a des murs de machin, il faut y aller par gros grappes de deux, sur un pied, les années bisextiles, d'abord les voitures paires, ensuite les impaires. Enfin bon, voilà, on ne voyage plus du tout dans les années 2000, de la même façon qu'on voyageait dans les années 80.
On avait assez facilement accès aux hommes publics, c'est-à-dire qu'on pouvait les voir, ils étaient là, tandis que maintenant, ils ont tellement peur du terrorisme que vous les voyez avec une jumelle de loin, quoi.
Oui, c'est ça aussi. Bon, alors certains aussi ont intérêt à se planquer. On a vu au salon de l'agriculture qu'effectivement, moi ça me fait rire parce qu'on leur met des villages Potemkin au Macron, mais...
Il était entouré de 3 bataillons de CRS, 2 bataillons de gendarmes et 5 gardes du corps qui faisaient 2 mètres de haut.
Alors que Chirac, pour le coup, y allait tranquillement, avec littéralement, on peut dire, sa bite et son couteau.
Il était là, tranquille, il se promenait. Et les paysans lui disaient bonjour, et ils disaient bonjour aux paysans. Donc, il y a une relation avec le pouvoir qui s'est détériorée depuis une trentaine d'années. On a vraiment l'impression que maintenant, ils vivent sur l'Olympe.
Oui.
Et qu'ils en descendent de temps en temps pour dispenser leur bonté au peuple, mais qu'ils ne savent pas très bien qui c'est.
Mais d'ailleurs, moi, ce qui m'a choqué aussi, indépendamment du fait à chaque fois de se présenter aux gens en bras de chemise, on dirait un cambiste, c'est que quand il s'est permis de parler aux paysans, au lieu de leur parler avec un français soutenu, il leur a parlé « Ouais, mais toi, tu vois, machin, je dis mais enfin... » Mais enfin...
Et en plus, c'est pas ça.
Vous n'avez pas gardé les cochons ensemble?
Non, non, le paysan, il les a gardés tout seul.
Et puis c'est pas parce que c'est des paysans qu'ils ont pas envie que tu leur parles comme à des ministres.
Oui,
tu as le au contraire.
Mais peut-être ils parlent à ces ministres comme ça, cette andouille.
Oui, mais ça fait vaniteux et populaire. Garde un peu de imagine. Même Mitterrand, pour qui j'ai pas le nom, il gardait toujours énormément
de distance.
Et je pense que les gens auraient du respect pour lui si aussi lui-même accordait ce respect aux autres.
Ben, il doit respecter sa fonction, c'est-à-dire que c'est le corps du roi incarné, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a certains.
Il a revêtu la tunique
de Nexus, celle qui te brûle.
Alors, nous allons passer dans cette excellente émission de questions-réponses. Je vais commencer par une des questions les plus difficiles parce qu'elle est théorique, mais je pense que ça peut intéresser les gens. Alors, cher Charles Gave, merci pour vos émissions. C'est une question de Netobel. Pourriez-vous m'expliquer la relation entre le M2 et l'inflation mesurée, donc la masse monétaire 2, donc tu vas réexpliquer.
Et l'inflation,
voilà. Attends. Avec l'augmentation de la productivité, les prix des produits devraient baisser au coût marginal de production, ce qui s'est traduit par des prix plus bas, n'est-ce pas? Mais l'inflation mesurée ne peut pas considérer cela, donc l'inflation réelle ne serait-elle pas plus proche du M2 lui-même?
C'est une question compliquée, mais alors...
C'est pour ça que je commence par celle-là, comme ça.
Voilà. Alors, c'est... Il va falloir introduire une autre notion, c'est celle de la vélocité de la monnaie.
Ouais.
Et ça va pas être atteint. Alors, il y a un économiste américain qui, dans les années 20, a inventé la notion de, donc, le produit national brut, qui on appelait ça pas comme ça à l'époque, mais enfin, la richesse créée dans l'économie, mais non, qu'on appelle les prix multipliés par les quantités, PQ, mais je veux pas de...
Non, c'est... Voilà, non.
Pas de mots idiots, hein.
Non.
On l'appelle PQ, d'accord.
De toute façon, on ne peut plus faire de mots idiots avec le PQ, parce que c'est quand même le nom du parti québécois.
Oui, c'est vrai. Donc, et on a les gens qui nous écoutent au Québec.
Voilà, au Québec. Donc, salutations à nos amis québécois.
Oui, qui sont pas... Je sais pas très bien ce que fait le PQ, mais enfin, bref. Je préfère pas savoir. Non, mais donc, PQ, c'est donc la quantité est égale à la monnaie qu'il y a dans le système... multiplié par le nombre de fois où cette monnaie tourne. Alors, tu te dis, bon oui, ça paraît une idée logique. Et donc, MV égale PQ. Donc, la masse monétaire M2 multipliée par la vélocité de la monnaie, le nombre de fois où elle tourne, est égale à la richesse produite dans le pays. Ça paraît logique. Bon. Une fois qu'on a dit ça, on regarde historiquement, et alors de 1950 à peu près à... 1990, c'est-à-dire pendant 40 ans, et même avant, d'après les études de Milton Friedman, V, c'est-à-dire la vélocité de la monnaie, le nombre de fois ça tournait à peu près 1,8 fois par an dans l'économie.
D'accord.
Donc, mettons 2, pour faciliter les calculs. Et donc, c'était assez facile. Si donc le gouvernement mettait 1 de monnaie, ça créait à terme 2 de voilà. Et c'est là-dessus que beaucoup d'études économétriques, c'est-à-dire on essayait de prévoir l'avenir, se produisaient. Puis alors, à partir des années 80-90, il s'est passé un phénomène. C'est que d'abord, dans les années de 90 à 2000, pendant que l'économie explosait avec la bulle Internet, etc., enfin ça bougeait, ça marchait à fond la caisse, la vélocité s'est effondrée. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle s'est mise à tourner beaucoup plus vite, la monnaie. Et puis à partir de 2002-2003, la Banque centrale, il y a eu une récession, elle recommence à mettre beaucoup d'argent dans le système. Et à ce moment-là, la vélocité s'est effondrée. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle est montée comme une fusée, puis ensuite, 10 ans après, elle s'est effondrée, elle continue à s'effondrer en ce moment. Et alors, normalement, si tu mets trop de monnaie dans un système, c'est la théorie quantitative de la monnaie, s'il n'y a pas d'investissements qui sont faits avec, bah, les prix augmentent.
Oui.
Tu vois, c'est ce qui se passe, c'est que les quantités augmentent pas des masses, mais M augmente. Et pendant, et là, il s'est passé un phénomène curieux, c'est qu'on a donc une augmentation extraordinaire des quantités, ce qui a fait que V a beaucoup baissé, et que les prix n'ont pas baissé, ou très peu. Et donc, c'est probablement à ce moment-là, parce qu'on avait des gains de productivité énormes, pour revenir à la question de ton gars. C'est-à-dire que les prix ne montaient pas, parce qu'on était dans une période extraordinairement favorable, où il y avait des inventions nouvelles, donc il y avait des tas de produits dont les prix baissaient, les télévisions...
Voilà, c'est ça. Mais j'allais dire, les gains de productivité ont quand même été délimités à certaines choses. Les télévisions, tout ce qui était high-tech...
Et c'est le moment aussi curieux que ça paraisse, où la Chine a commencé à apparaître sur les marchés.
Okay,
et oui. Donc, il y avait donc la Chine, qui produisait énormément avec des coûts très bas, a maintenu les prix, et encore plus à partir de l'an 2000. Donc, pendant de 2000 à 2020 à peu près, les banques centrales ont produit de l'argent comme des malades. Beaucoup de gens s'attendaient à des hausses de l'inflation, puisqu'on faisait marcher la planche à billets. Et puis, il n'y en a pas eu au départ. Et ça a beaucoup surpris les gens. Et donc, les banques centrales ont dit au poil, on peut remettre de l'argent dans le système, acheter les déficits budgétaires, il n'y a plus d'inflation, on a trouvé la solution. Et pan, avec le Covid, d'un seul coup, l'inflation est repartie comme une fusée. Ouais. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que la vélocité de la monnaie, cette espèce de V là, c'est vraiment la folle du logis. Il y a des moments où elle passe au travers du toit, on ne sait pas pourquoi, parce que ça veut dire, la vélocité, ça mesure, si tu veux ce que j'essaie de dire aux gens, ça mesure l'appétit au risque dans les systèmes. Donc quand les gens sont très optimistes, c'était après la chute du mur de Berlin, c'était la victoire du capitalisme, c'était, c'était les théories de Fukuyama, on a gagné la guerre maintenant, on a une démocratie dans le monde entier qui va arriver. Donc à ce moment-là, les gens ont une espèce de vague d'optimisme et ils se sont mis à dépenser, à investir, ils avaient confiance.
Il y a ça, et il y a aussi la construction de nos sociétés qui s'est faite sur une ère de la consommation vous rendra libre et heureux.
Oui.
Et on a quand même poussé les gens à s'endetter très fort. On a poussé les gens à s'endetter
pour de la consommation.
Pour des voyages,
Oui, mais en même temps, tout le monde était employé, leur salaire montait, donc ils étaient... c'était une époque de 80... Bah, c'est les années Reagan et Thatcher. Quoi.
Oui,
c'est...
alors là, tu es dans les années 80.
Des années 90, c'était là pour résultat des politiques de Reagan et Thatcher qui avaient baissé les impôts, ont baissé les réglementations, etc. Donc on a eu 10 ans de bonheur total. Puis ensuite, on s'est fait rattraper et la vélocité de la monnaie s'est effondrée. Et donc, moi, ce que j'essaye de faire dans mes travaux ici, c'est pour essayer d'expliquer ce qui se passe, c'est quand la vélocité monte très fort, ça veut dire que les gens sont contents de prendre du risque, et il faut se bourrer d'action.
Oui.
Et puis, quand la vélocité commence à se péter la gueule, ça veut dire que, il y a de l'argent dans les bas de laine, etc. Enfin, l'argent tourne beaucoup moins, ce qui veut dire que soit il y en a trop, soit il est mis en réserve et les gens ne s'en servent pas. Quoi. Et à ce moment-là, en général, les taux baissent. Et les marchés des actions peuvent monter ou pas, mais en tout cas, les taux d'intérêt baissent. Donc, on a eu une période où les gens ont été pleins d'optimisme, et à partir du début des années 2000, c'est-à-dire à partir du moment où la politique, je dirais, quasiment allait jusqu'à 9-11. Mmh. Tu vois, les gens étaient très optimistes jusqu'au tour jumelle, là. Puis là, on s'est rendu compte que la guerre était toujours là, et donc il y a une espèce de remontée du pessimisme. Donc si je devais...
Enfin oui, mais si tu regardes, les banques ont quand même continué à ce moment-là sur le credit loan.
Oui, mais il y a eu des gens... Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est en effet, comme la rentabilité du capital baissait parce que les gens étaient plus pessimistes, etc., les gens se sont mis à prendre du levier pour essayer de gagner la même chose. Si tu as l'habitude de gagner du 7% par an et que tu en gagnes naturellement sans prendre de levier, ben à ce moment-là, tu n'en prends pas du levier.
Mais ils ont pris un levier incroyable avec des hypothèques à ressort dans l'immobilier, et on a eu, à ce moment-là, la grande crise de l'immobilier avec ses montages.
Avec ses montages. Et là, on a eu un vrai effondrement de la vélocité. Donc la vélocité
parce
de la monnaie...
Parce qu'on a eu une richesse non créée...
On a eu une richesse, c'est ça, pas non créée, mais une richesse fictive qui a remplacé une richesse créée. Quoi. Oui. Je parle souvent de la hausse de l'immobilier en France qui est un
enrichissement sans cause.
Un enrichissement sans cause. Ben, on a favorisé à partir de 2000, par la manipulation des taux d'intérêt dans le monde capitaliste, l'enrichissement sans cause par rapport à l'entrepreneur. Dans les années 2000, avant 2000, c'était l'entrepreneur. Après 2000, c'était l'enrichissement sans cause, c'est-à-dire la manipulation des taux de change par les banques centrales. Et ça mène aussi à une baisse de la vélocité de la monnaie parce que La différence, c'est que si tu prêtes de l'argent à un entrepreneur, que son affaire marche, il va rembourser.
Oui.
Et donc, la masse monétaire que tu as créée va disparaître au fur et à mesure que tu la rembourses. Bah, tu détruis la monnaie, tu vois ce que je veux dire. Tandis que si tu passes d'une spéculation sur ta maison à une autre, sur une autre maison, à une autre, sur une autre maison, la masse monétaire ne disparaît jamais. C'est jamais remboursé. Tu portes tous ces biens. Et donc, ça finit par créer des désastres financiers. Donc, avant, jusqu'en 2002-2003, on a eu une politique monétaire raisonnable avec un homme qui s'appelait Greenspan, qui était un très bon banquier central, malgré ce que les gens en disent. Et à partir de 2002-2003, on a eu des guignols partout. On a eu Bernanke, on a eu Draghi, on a eu que des nuls, quoi.
Hasard, je ne crois pas. Non, enfin, des nuls, pas pour tout le monde.
Pas des nuls. On a eu des gens qui, dans le fond, ont géré le système pour augmenter la fortune des riches.
Et ça a très bien marché, d'ailleurs.
Et l'appauvrissement
des pauvres.
C'est honteux. Donc, la question sur la vélocité est très importante, mais il faut bien que celui qui me pose cette question, merci d'ailleurs, c'est si vous comprenez la vélocité de la monnaie, pourquoi elle bouge, vous êtes le roi du monde.
Alors, cela dit, c'est des questions comme ça intéressantes que dans notre prochaine université masterclass Charles Gave, je pense qu'on fera des petits chapitres comme des cours de 10 minutes, l'offre et la demande, qu'est-ce que la vélocité de la monnaie, qu'est-ce que le QE, qu'est-ce que...
Pour expliquer aux gens, allez, je vais vous la faire courte, mais sur le long terme, en principe, les actions suivent les profits des sociétés. C'est-à-dire que vous prenez depuis 1945 les profits des sociétés américaines, vous faites un ratio entre le profit des sociétés américaines et le cours de bourse, et vous voyez, bon, ça se suit. Alors il y a des moments où les actions sont chères, les actions ne sont pas chères, mais en fait, vous êtes sur une horizontale par rapport au profit. Et puis de temps en temps, on passe au-dessus et on passe en dessous. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on passe au-dessus, on passe en dessous. Mmh. Et c'est ça qu'on essaiera d'expliquer, les moments où on est au-dessus, les moments où on est en dessous, les moments où il faut faire attention, voilà, c'est... Et aussi les taux d'intérêt, quelle est la relation. Donc, il y a un énorme boulot devant nous. Si on se lance dans ce coup-là, je pense qu'on va le faire. On n'est pas rendu parce que...
Écoute, il n'y a pas d'heure pour les baves, les braves.
Et puis, ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'il ne faut pas planter des arbres.
Place aux vieux. Alors, citoyen européen 54-36 te demande bonjour monsieur et madame Gave. Au vu des prix des actions LVMH en ce moment et de la baisse du marché chinois, en sachant que les Chinois sont parmi les plus gros clients LVMH, oui. Ce n'est pas faux. N'est-il pas plus sage pour un nouvel investisseur d'attendre quelques mois avant d'acheter des actions LVMH ? Car la dernière fois qu'elles sont montées, si haut, elles ont fait une gamelle. Avec le marché chinois qui a baissé, cela pourrait-il avoir un double impact prochainement ?
Alors, c'est une question qui est très intéressante, mais à laquelle je ne répondrai pas. Pour une raison très simple, c'est que ce monsieur me demande de parler de l'avenir. Or, je ne fais jamais de prévision. Si j'étais capable de prévoir le moment où il faut acheter les BMH ou Air Liquide ou n'importe quoi...
Non, ce que tu fais, toi, c'est que tu regardes les temps longs de l'économie et tu dis, voilà, étant donné le temps long, sur un panier diversifié dans lequel je vais mettre des actions du luxe, voilà. Mais il est vrai que je ne t'ai jamais vu dire, oh là là, c'est le moment d'acheter du Total. Ou c'est, enfin, voilà. si tu le fais, c'est parce que tu sais que les pétrolières vont surperformer.
Je l'espère.
Tu ne le fais jamais dans une idée de j'étudie le bilan ou quoi que ce soit.
Je dis dans le fond... Vous avez deux choses. Vous pouvez essayer de devenir riche avec la bourse, ou vous pouvez essayer de rester riche. Mmh. Donc, moi, je parle beaucoup aux gens qui veulent que leur épargne monte sur le moyen long terme, mais je ne suis pas Warren Buffett. Je ne vais pas devenir riche en jouant la bourse. Simplement, je vais essayer de faire du 3 ou 4% par an en termes réels, ce qui est bien, ce qui est même très bien, avec une volatilité la plus faible possible, de façon à ce que vous n'ayez pas d'arrêt du cœur. Ou que vous réussissiez à pas dormir la nuit, mais je ne vais pas faire des coups de bourse.
Non.
Je vais jouer les classes d'actifs, les actions, l'or, les marchés obligataires, le cash, et je vais essayer d'arbitrer ça sans arrêt pour limiter les pertes et pas trop déguster si ça baisse. Donc, la façon dont j'envisage la bourse, c'est jamais au niveau individuel de chaque valeur.
Alors Max te demande, bonjour, que pensez-vous de la forte hausse des actifs financiers, bourse, or, crypto-monnaie, alors que l'immobilier baisse et que beaucoup de métriques sur l'économie réelle sont dans le rouge? En outre, que pensez-vous de ces entreprises qui voient leur PER exploser supérieur à 60?
Mais ça, c'est une bonne question. J'ai essayé d'y répondre depuis plusieurs fois, mais je vais redonner la même réponse. C'est, vous avez... Comme l'a dit Elon Musk, qui était très intelligent, vous avez les actifs qui sont créés dans le système monétaire, qui est le système...
D'exploitation.
D'exploitation, merci ma fille. Le système d'exploitation du capitalisme. Donc, vous avez les monnaies, le cash, mettons, qui sont là-haut dans un système qui est le système d'exploitation. Et puis en dessous, vous avez les vrais actifs. Bon. Et vous avez besoin de la monnaie pour mesurer le risque de crédit, pour mesurer le passage du temps. Mais tous ces actifs sont complètement conceptuels. Mmh. Ils n'existent pas dans la réalité. Si tu veux. Ils existent dans la tête des hommes. Hein. L'argent existe dans la tête des hommes, pas ailleurs. Et si, par exemple, d'un seul coup, tu démonétises complètement la monnaie, ce qui est arrivé au rouble en 1917, ou ce qui est arrivé à l'Allemagne pendant sa dépression et puis ses faillites, puis après la guerre... Ben, si tu arrives avec un billet de 100 roubles, ça vaut rien. Tu vois, c'est un bout de papier, ça n'a plus aucune valeur. Donc ça, ce sont des actifs qui n'ont pas de valeur. Mais tu as besoin de ces actifs pour valoriser les actifs du système qui est en dessous, le système économique. Donc, imaginons qu'on soit dans un pays qui a créé beaucoup trop de ces actifs là-haut. Ce qui a été un peu le cas avec la Banque Centrale Européenne et tout.
Bien sûr.
Et que tu aies beaucoup d'obligations. La capitalisation boursière de nos marchés obligataires est à peu près une fois et demie la capitalisation boursière des actions. C'est-à-dire, c'est 50% dessus. Et que toi, tu sois une compagnie d'assurance, un fonds de pension, ou un family office, ou j'en sais rien. T'as beaucoup d'actifs là-haut dont tu sais qu'ils ne valent rien parce qu'on en a fait beaucoup trop. Donc, tu vas vendre ces actifs pour acheter des actions, pour acheter de l'or, pour acheter du bitcoin. Donc, dans l'histoire, il y a eu très souvent des hausses phénoménales des marchés des actions, alors même que l'économie allait très mal et que la monnaie allait disparaître. Et j'ai presque envie de dire, c'est parce que la monnaie allait disparaître
que les
vrais actifs montaient.
Il est certain que quand tu vois que tout part à la valo, tu as tendance à dire, tiens, je vais acheter de l'or, ça vaudra toujours quelque chose.
Voilà.
Presque aussi, j'ai envie d'acheter de l'art parce que un monnaie, ça vaudra toujours quelque chose. Sauf que maintenant, les prix sont devenus ridicules. Mais enfin, à une certaine époque, tu pouvais dire, je vais acheter un joli tableau de maître, au pire, ça me fera plaisir.
Ou un joli meuble. Tu pouvais faire ça, c'est ce qu'on appelle les valeurs de rareté. Hein. C'est-à-dire les trucs...
Une belle argenterie,
des trucs comme ça. C'est une très bonne question, parce que je suis en train de travailler là-dessus, justement, avec Didier, là. C'est que vous avez des périodes longues dans l'histoire. Hein. J'ai déjà dû le raconter, mais je vais le répéter. C'est que, par exemple, de 1840 à 1914, nous avons été en étalon or en France. C'est-à-dire que la masse monétaire... était fonction du stock d'or de la Banque de France. S'il augmentait, la masse monétaire augmentait, c'est-à-dire si on avait souvent un commerce extérieur excédentaire, sinon ça baissait. Bon. Et à ce moment-là, les taux d'intérêt montaient, puis l'économie rentrait en récession. Donc c'était un système automatique, la Banque centrale n'avait pas de rôle presque. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que tu as gagné de l'argent sur les actions, bien géré, perdu sur les mauvaises, tu as gagné un petit peu d'argent sur l'immobilier, tu as gagné un petit peu d'argent sur tes obligations, 2% réel. Mais tu n'as pas gagné un sou sur l'or. Parce que l'or, c'était zéro. Tu vois, tu ne gagnais pas d'argent. Et donc, de 1840 à 1914, il fallait avoir tout sauf de l'or. Parce que tout était basé sur l'or. Tu vois, donc, il n'y avait pas de risque qu'il se passe quelque chose là-haut. Puis à partir de 1914, pour financer les guerres, on s'est mis à imprimer des choses là-haut comme des malades, des obligations, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que de 1914 à 1945, le temps des guerres, là, il fallait avoir que de l'or. Mais alors toi, t'es un bon bourgeois tranquille depuis 25-30, tu sais que ça a marché depuis quasiment un siècle, et tu te dis, bon, y a une guerre, mais on va pas faire une pendule, je vais acheter des obligations d'État. Je vais acheter des obligations d'État pour préserver mes enfants. Et de 1914 à 1978, là, tes obligations que tu as achetées en 1914, elles perdent 98%. Et puis ensuite, tu prends une période de croissance où il faut avoir des actions, pas tellement d'or d'ailleurs, tu travailles beaucoup et tu achètes de l'immobilier. Puis tu arrives dans une période de grande inflation où il faut avoir que de l'or, c'est tout, à nouveau, et du cash. Et puis tu as la grande période de boom financier qu'on a eu dans les 40 dernières années, où les taux d'intérêt passent de 15 à 0. Et à ce moment-là, il faut avoir des obligations et des actions. Donc je veux dire, c'est que dans l'histoire du capitalisme depuis à peu près 200 ans, tu as eu quatre périodes complètement différentes. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a, comme il y a quelque chose qui a marché, c'était 50% actions, 50% obligations depuis 40 ans. Tu vas voir ta banque aujourd'hui et ils te disent, monsieur, il faut que vous ayez 50% d'actions, ça a marché depuis 40 ans, on a des quantitatifs, des gars qui ont fait des calculs, ça marche dans tous les cas de figure, sauf qu'ils n'avaient pas de données pour les prévenir. Donc, si tu vois, c'est vraiment le gars qui cherche ses clés sous le réverbère, parce que c'est là qu'il y a de la lumière, tu vois. Ouais.
Parce que c'est là qu'elles étaient tombées la dernière fois aussi.
Ou peut-être aussi, parce qu'elles étaient tombées toujours là, mais ça veut dire... Donc, c'est absolument extraordinaire, parce que moi, ce que je sens dans toutes mes fibres, c'est qu'on est en train de changer de période, que les marchés obligataires vont disparaître, qu'il va y avoir...
Oui, c'est un changement de paradigme total.
Complet. On est plutôt en train de rentrer en 1915 plutôt qu'en 2001. Mm-hmm. Parce qu'en 2001, je disais aux gens, il faut vous bourrer d'obligations. Donc, ce que j'essaye de dire aux gens, c'est faites gaffe. Ne restez pas avec le truc qui a marché depuis 40 ans si les fondamentales ont changé. Or, les fondamentales ont changé. Donc, faites très attention, c'est le moment où les conseillers habituels vont vous planter parce qu'ils vont vous dire, écoutez, ça marchait depuis 40 ans.
Oui, alors, pas forcément sciemment, simplement, ils ne le voient pas.
J'ai remarqué un truc, c'est que si c'est un chiffre, les gens pensent que c'est vrai.
Ouais.
Mais l'histoire du capitalisme a existé avant le PC. Tu vois, il y a eu des cycles extraordinaires, il y a eu des trucs. Et donc, nous, on essaie d'accumuler des données sur l'histoire du capitalisme depuis justement deux siècles, parce qu'à peu près l'histoire. Mais en général, on trouve quelques chiffres, et c'est plutôt une fois par an. Mais ça n'a aucune importance, parce que ça te donne toujours le même message, c'est... Il y a des moments où on va détruire ce capital monétaire là-haut, parce qu'on en a beaucoup trop fait. Et donc, on ne pourra jamais le rembourser. Et maintenant, la question, c'est comment va-t-on pas le rembourser ? On peut soit faire faillite, soit avoir une inflation galopante, soit vous piquer tout le reste de votre pognon. Tu vois, c'est différent. Mais en tout état de cause, avoir les trucs là-haut, c'est mortel. Donc, ce que je dis aux gens, c'est faites gaffe. Voilà, voilà.
Alors, Simon te pose la question suivante. Bonjour, dans le portefeuille idéal, vous conseillez des actions de sociétés dans lesquelles l'État n'est pas partie prenante. Comment un particulier peut-il vérifier par lui-même que l'État n'a pas d'influence sur une société ? Quels documents avez-vous consulté pour trouver ces informations ?
Bon, le plus simple, c'est d'aller dans le bilan de la société et puis vous regardez si l'État a quelqu'un au conseil d'administration.
Mais par l'État, il faut regarder large.
L'État ou la Caisse des dépôts, c'est pareil.
Oui. Mais oui, voilà.
Vous regardez le nom du conseil d'administration et voyez qui représente. Moi, j'ai été au conseil de SCOR.
Mais il y avait quand même le frère Sarkozy. Si on regarde ça, on n'y serait pas allé.
Oui, non, mais il y avait le frère de Sarkozy, mais qui représentait une mutuelle.
Ah, d'accord.
Une mutuelle, donc. Et tandis que si vous allez, je sais pas, au conseil des aéroports de Paris, qui est une très belle société, là, vous devez avoir 3 ou 4 représentants, hein, qui représentent la Caisse des dépôts, l'autre qui représente Air France, enfin je sais pas quoi, j'imagine. Hein. Et donc vous savez que cette société sera gérée en fonction des demandes de l'État. Et les demandes de l'État, c'est de gagner des élections aux élections cantonales la semaine prochaine. Mmh. C'est pas que Air France marche. Voilà, donc c'est tout.
Alors, bonjour Monsieur Gas, vous avez dit dans une vidéo qu'il fallait taxer la consommation et non pas la production.
Oui.
Mais cela ne revient-il pas au même ? Si le prix final d'un produit est plus élevé par une TVA forte, il sera moins consommé en raison du nouvel équilibre entre l'offre et la demande. Donc l'étape à laquelle on taxe est-elle vraiment importante ?
Ben oui, parce que... C'est une bonne question, ils sont malins. Ou...
Ils sont malins, hein, tu as vu, hein ?
Ils sont malins, mais c'est une bonne question. C'est une question tordue, mais elle est bonne. Je vais essayer de répondre comme ça. Dans un système capitaliste qui fonctionne, l'épargne est égale à l'investissement. Bon. Et donc, quand vous consommez la consommation, Ceux qui payent le plus d'impôts, c'est dans le fond ceux qui épargnent le moins.
Mmh. Oui.
Et donc, en taxant la consommation, ipso facto, tu permets à ceux qui sont les petites fourmis
d'être avantagés.
Donc, c'est une façon d'avantager les fourmis.
Dans un monde où il n'y a pas d'inflation.
Dans un monde où il n'y a pas. Mais même dans un monde où il y a de l'inflation, parce que seulement les fourmis, elles vont acheter des actions si elles écoutent l'idéal, elles ne vont pas acheter des obligations. Et donc, voilà, c'est d'une façon déguisée de maximiser la rentabilité pour les fourmis et de la minimiser pour les cigales.
Alors, j'ai une question, mais j'ai envie d'y répondre moi-même. Bonjour Monsieur Gaffe, quelles sont les bonnes caractéristiques d'une obligation? J'ai envie de dire une obligation morte, comme un bon indien, tu sais.
Comme un bon indien. Non, une bonne caractéristique d'une obligation, c'est pas difficile. Ça revient à la vieille blague que m'avait raconté le vieux Monsieur Gutzwiller, enfin, qui m'avait dit: Charles, vous m'avez l'air d'être un garçon intelligent, vous serez peut-être banquier un jour. Ce qui était sans doute pour lui le mieux qu'on pouvait faire dans la vie, quoi. C'était. Et Charles, si vous êtes banquier un jour, souvenez-vous d'un truc, c'est qu'il ne faut jamais prêter de l'argent à des gens qui en ont besoin. Donc la caractéristique de l'obligation, c'est si le type, par exemple, si LVMH émet une obligation, comme ils sont probablement cash flow positif massif, ils n'en ont pas besoin, ils trouvent que c'est un bon moment pour émettre une obligation, parce que les taux sont bas ou j'en sais rien. Et à ce moment-là, tu peux acheter des obligations de LVMH parce qu'ils n'ont pas besoin du pognon. Mais une obligation française, l'État français, c'est pas une bonne idée parce qu'ils ont vraiment besoin du pognon. Ce qui veut dire que toujours dans l'histoire, tu as eu une prime sur les obligations d'État qui était toujours plus chère que les obligations du secteur privé parce que ils pouvaient toujours te massacrer sur les impôts pour rembourser leur obligation. Mais maintenant, ils peuvent plus. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que cette prime d'à peu près 2 points d'intérêt qui existait sur les obligations privées, payer toujours 200 points de base de plus que l'État, est-ce que ça ne va pas être le contraire dans 3 ans?
Non.
Est-ce que, dans le fond, est-ce qu'une obligation LVMH ou Hermès, s'ils en émettent, ne sera pas beaucoup plus chère qu'une obligation de l'État français dans 2 ou 3 ans? Et donc la question qui est posée, c'est la question du spread entre les obligations privées et les obligations publiques. Il est aujourd'hui extraordinairement bas, personne n'y comprend rien. Pourquoi? Mais je me demande si ce n'est pas un signe que les gens commencent à avoir de moins en moins confiance dans les obligations du secteur public, alors que la plupart des gens l'interprètent de façon différente en disant les marchés sont très spéculatifs aujourd'hui, les obligations privées sont très chères. Je ne suis pas sûr. Mmh. C'est peut-être une marque d'un de ces changements, quoi.
Alors, bonjour. Est-ce que Charles serait d'accord d'expliquer ce que sont exactement des fonds comme BlackRock, ce qu'ils font et comment ils fonctionnent réellement? Pourrions-nous également avoir son avis concernant l'influence que des fonds tels que BlackRock ont réellement sur les affaires du monde? Merci beaucoup pour vos émissions, toujours si intéressantes et agréables à écouter.
Bon, alors là aussi, décidément, c'est la journée des questions difficiles. Voilà, c'est toujours pareil. On éduque les gens et après, ils vous posent des questions difficiles.
Au lieu de se contenter de dire, comment
Merci
fait-on bon. Une addition?
C'est vrai, c'est agaçant ça. Non, mais je vais y répondre. Alors, BlackRock, c'est un gérant. C'est-à-dire qu'il va voir les grands fonds de pension et tout, et il dit, je vais gérer l'argent de vos clients, ce que j'ai fait un moment à Londres,
donc,
tu sais.
Ça veut dire qu'un client, il va voir un fonds de pension.
Il va voir, BlackRock va avoir un fonds de pension.
Non, parce que je veux savoir combien il y a d'étapes. C'est-à-dire, toi, le particulier,
pension,
tu vas voir ta banque, elle va avoir un fonds de pension, le fonds de pension, elle va voir BlackRock.
Non, le fonds de pension, tu n'as pas besoin d'aller le voir, parce qu'en principe, c'est ton employeur qui s'en occupe. Mettons que tu sois un grand fonds de pension, le fonds de pension des employés de l'État de Californie.
Voilà,
un gros fonds de pension, tous les fonctionnaires californiens. C'est le plus gros fonds de pension du monde, c'est pour ça que je le mentionne.
Bon, alors, donc tu es le fonds de pension des fonctionnaires.
Il doit gérer 300 milliards de dollars, je sais pas combien. Il va voir BlackRock, et BlackRock lui dit, bon, ce que je vais faire pour vous, c'est pas difficile. Je vais vous garantir la rentabilité du marché américain.
Ok.
Voilà, donc vous voulez mettre 20% de vos actifs en actions du marché américain. L'indice, c'est le Standard & Poor's 500.
Voilà ce que j'allais dire.
Et je vais vous garantir que vous ferez la même rentabilité. Et pour ça, il va acheter des indices que lui-même fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir 500 valeurs, il en achètera. Et alors, sur ces 500 valeurs, il y a deux façons de les valoriser. Ou tu mets un 500e pour chacun des titres, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là, ils sont ce qu'on appelle equally weighted.
Okay.
C'est-à-dire que tu as un 500e de IBM, un 500e de General Motors, etc. Ou bien alors, tu as les mêmes 500 titres, mais tu les pondères en fonction de leur capitalisation boursière. C'est-à-dire que, à ce moment-là, si tu veux, la plus grosse capitalisation boursière du monde aujourd'hui, c'est sans doute Apple.
Oui.
Et donc, Apple fera, à la place de faire un 500e, il fera 7% du fonds. Et puis ensuite, Amazon fera 6% du fonds, etc. Donc, tu as les mêmes 500 titres, ou tous les mêmes, ou les mêmes 500 types, les plus gros étant beaucoup plus capitalisés. Ça s'appelle une gestion indicielle. Et ils font tourner leurs ordinateurs, et ils te gèrent ça pour... rien, quasiment rien. Et à ce moment-là, comme ils garantissent la rentabilité du marché américain, ben, tous les types qui, comme nous, de temps en temps, essayons de faire un peu mieux que l'indice, etc., ben, on se fait bouffer, parce que nous, on prend 1,5% de gestion, et ben, ça arrive de sous-performer pendant un an ou deux, et à ce moment-là, pan, on devient... Il y a le fonds de pension qui vient à ta porte, et il dit, vous avez fait moins bien que BlackRock, qui ne me coûte rien, vous me coûtez 0,50, donc je prends votre fric et je le donne à BlackRock. Et donc aujourd'hui, par exemple, ils font la même chose pour le marché obligataire.
Mmh.
Alors, on a été en concurrence avec BlackRock, avec Gavcal, là, pour un portefeuille obligataire, je crois, quelque part en Asie. Et BlackRock le gérait pour un point de base.
Wow.
C'est-à-dire 0,01%.
Ouais.
Comment veux-tu qu'on se...
Comment veux-tu ? Bah, le problème, c'est qu'ils deviennent tellement gros, si ça leur permet de faire des économies d'échelle absolument
et
incroyables.
Surtout, ils n'ont plus de personnel. Ils achètent le marché, c'est leur ordinateur qui rebalance sans arrêt, qui achète, qui vend.
C'est hyper dangereux, parce que s'ils se gourrent sur un truc...
Non, parce que c'est très diversifié. Mais par contre, ce que ça veut dire, c'est que le rôle du marché des actions, c'était qu'il y ait des gars comme moi qui essayent de voir les bonnes valeurs, etc. Donc, il y avait une espèce de
d'arbitrage,
de price discovery. Donc, tout le monde avait des résultats très différents, mais ça faisait que le système fonctionnait en fonction d'une recherche de la rentabilité marginale du capital investi. Donc, on y est arrivé, il y en avait qui arrivaient, d'autres qui arrivaient pas. Mais le fait qu'il y en ait des tas qui se plantaient permettait au système de bien fonctionner. Mais à partir du moment où tu prends ce qui existe et plus c'est gros, plus t'achètes, t'es dans le système communiste. Il n'y a plus aucune recherche d'efficacité. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on avait avant un système crasseux et coûteux qui marchait très bien pour permettre aux bonnes sociétés de se développer et aux mauvaises de disparaître. Et maintenant, ben, c'est fait automatiquement. Donc, le capitalisme, comme il le fait souvent, est en train d'inventer dans les marchés financiers l'outil qui va le détruire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus c'est gros, plus t'en achètes. Et ça peut pas ne pas créer des bulles. Et puis un jour, ben, ça devient tellement grotesquement surévalué que tout s'écroule, et tout le monde dit la bourse, c'est n'importe quoi. Mais c'est les réglementations qui ont été faites qui disent il faut que vous gériez ce portefeuille en fonction, avec le plus bas coût possible.
Ouais.
Et à ce moment-là, on est cuit. Bah, c'est-à-dire que c'est très logique au niveau de chaque fonds de pension, mais pour la totalité des fonds de pension, c'est un désastre.
Bah, oui.
Tu vois, c'est ça le paradoxe auquel on arrive aujourd'hui. On arrive au paradoxe que maintenant, les marchés financiers sont devenus des espèces de trucs qui foncent à toute allure sans que personne ne le guide.
Alors, pourquoi, ça, il y a un truc que je ne m'explique pas, pourquoi dans certains milieux un peu trop complotiste, parce que j'estime qu'il est normal de se poser des questions, mais il y a un moment, ne se jamais poser des questions est idiot, mais s'en poser toujours l'est tout autant.
Tout autant, oui.
Et les gens adorent agiter, comme certains adorent agiter la banque Rothschild, certains adorent agiter BlackRock.
Alors je vais t'expliquer pourquoi, c'est que du coup aujourd'hui, quand j'étais jeune, les gestions indicielles qui commençaient à exister représentait 5% du marché. Tu vois, c'est 5% du marché qui était géré. Donc, ceux qui décidaient quelles étaient les valeurs chères, c'était les 95% restants.
Bien sûr.
Donc ça, c'était le marché, ça marchait bien. Donc une gestion indicielle, ça marche, à condition que ça reste très minoritaire. Donc c'est le problème du passage à clandestin. Mmh. Il paye pas son truc, il a des meilleurs résultats que les autres. Mmh. Mais à partir du moment où tout le monde fait une gestion indicielle, qui tu suis ?
Bah oui.
Il n'y a plus de principe directeur. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces gestions indicielles sont devenues énormes, mais gigantesques. Tu as BlackRock, tu as State Street, tu en as 4 ou 5 comme ça qui sont gigantesques, Amundi en Europe. Mmh. Et ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui, ces gens détiennent, ils détiennent pas, ils détiennent pour le compte de tiers, mais ils détiennent 60% du capital des sociétés.
C'est incroyable.
Et donc,
ces capitalisations sont absolument incroyables.
Mais ça ne veut pas dire, si le fonds de pension de Californie décide que c'est lui qui vote, c'est pas BlackRock au moment des élections, au moment des conseils d'administration, ça va. Mais imagine qu'ils disent à BlackRock, écoutez, Roger Laflemme, vous votez ce que vous voulez. Et à ce moment-là, ça va pas du tout, parce que ça veut dire que BlackRock, en fait, peut changer le conseil d'administration de gens dont il n'est pas propriétaire. Donc, tout ça, ça pose des questions
pratiquement éthiques de survie des marchés per se.
Voilà, ça pose des problèmes éthiques. La justification du capitalisme, c'est le darwinisme.
Mmh. Donc, la destruction créatrice subpétarienne.
On est dans... entre les accords entre grandes sociétés, le monopole des GAFA, l'indexation, ce qui est en train d'apparaître comme société, c'est une société qui est une société tout sauf libre. Mmh. Donc c'est pour ça que je suis très mal à l'aise, parce qu'il est certain que les marchés nous ont amenés là. Il est certain qu'au niveau individuel, c'est une bonne décision d'indexer, parce que ça coûte beaucoup moins cher. Mais il est certain que les effets sur l'ensemble sont très mauvais. Donc c'est là où un pouvoir politique compétent devrait arriver et dire, dites les gars, l'indexation, c'est pas...
Oui, mais alors, tu sais, ce dont j'ai peur, c'est que comme c'est des métiers qui concernent quand même des gens très spécifiques... avec des compétences, qui requièrent des compétences très, très poussées. Est-ce que tu vois un politique l'avoir quand quelqu'un comme Bruno Le Maire, déjà, est incapable de même des notions primaires d'économie comme une balance des comptes courants ? Donc, je ne les vois pas intervenir sur l'indexation, non, parce que c'est incompréhensible pour eux.
Incompréhensible, et en plus, ça donne immédiatement... Donc, ça pose des vraies questions. Il va falloir trouver des façons d'y répondre.
Parce que c'est pratiquement le nouvel antitrust law, quelque part, qu'il faut repenser.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a des concentrations de pouvoir économique qui sont faites de façon parfaitement légitime.
Fin du 19e, début du 20e, notre nouvel horizon, c'est de repenser éthiquement à la manière de l'antitrust law ce régime.
C'est là où j'ai une différence avec beaucoup de... Parce que, avec beaucoup d'économistes, c'est que si on va vers un concept plus profond encore, c'est celui de Nassim Taleb sur la fragilité et l'antifragilité. Ces systèmes qui sont comme ça automatisés...
Hyper fragiles.
Ils sont hyper fragiles. Donc, si on laisse faire les marchés... Voilà, si on laisse aller les systèmes vers ça, les gamelles, quand elles vont arriver, vont être absolument effrayantes. Donc, il y a un moment où le système politique doit cesser de rechercher l'efficacité marginale et doit aller vers... orienter le système vers moins de fragilité. Mmh. Et c'est là où on reconnaît un grand politique. Et aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est que ils comprennent rien. Ils ne savent même pas. Je ne sais même pas s'ils comprennent la notion de fragilité, d'antifragilité. Donc, on l'a bien vu au moment du Covid et de l'écroulement des chaînes de distribution avec la Chine, etc. On avait bâti des systèmes extrêmement efficaces, mais extraordinairement fragiles. Et du coup, on s'est retrouvé une main devant, une main derrière.
Mais bien sûr qu'ils ne le comprennent pas. Là, ça fait 3 ans qu'on leur a dit, à partir du moment où, dans la fabrication de médicaments, interviennent des éléments qui sont faits en Inde et ainsi de suite, auxquels vous n'allez plus avoir accès, parce que vous ne payez pas assez cher, on ne va plus pouvoir fabriquer bon nombre de médicaments. Qu'est-ce qu'on remarque 3 ans après ? Oh, dis donc, il manque beaucoup de médicaments, il n'y a plus d'amoxicilline, il n'y a plus... Mais Évidemment, ça fait 3 ans qu'on vous le dit.
Oui, mais alors,
ils ont l'air de découvrir.
Ils ont l'air de découvrir, mais ce qui est étonnant, si tu veux, c'est qu'ensuite, c'est des excuses qu'ils vont trouver.
Oui.
Ils vont.
C'est les Chinois.
C'est
les Russes.
C'est les Chinois, c'est les Russes ou
c'est les Russes.
C'est la faute de Trump ou j'en sais rien. Donc ils vont chercher. C'est le moment dans les sociétés où les gens vont aller vers le bouc émissaire.
Oui, bien sûr.
La banque Rothschild, allez. Tu vois. Et
les
c'est
Russes.
Ça qui me fait peur.
Les Russes, ça marche assez bien.
Ça marche assez bien. Donc le coup du bouc émissaire, donc. On voit très bien les lignes de fracture s'ouvrir, et on voit très bien quelles vont être les solutions choisies par ces crétins. Mais il me semble qu'il y aurait peut-être une approche plus intelligente, ce serait d'avoir des gens qui comprennent ce qui se passe. Mais, c'est une très bonne question. C'est une vraie question philosophique.
Alors, Pascal te demande, bonsoir, acheter de l'or physique, est-ce toujours une bonne idée? Parce que je trouve que le cours de l'or flambe, donc est-ce vraiment le moment d'en acheter?
Ah, ça c'est encore une fois la question du timing sur laquelle mon incompétence ne le discute que mon ignorance. J'ai jamais essayé de le. J'ai toujours essayé de raisonner de façon différente. Hein. J'ai jamais cherché à savoir ce qui allait monter, j'ai cherché à savoir ce qu'il fallait pas avoir. Et je l'exclus. La question aujourd'hui, c'est l'or est beaucoup monté. Est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas en acheter?
Ça dépend. Si tu es dans une logique antifragile, tu restes toujours.
Moi, je suis une logique aujourd'hui inflationniste et antifragile. Eh ben, si vous voulez, il n'y a que l'or qui soit antifragile dans une période inflationniste.
C'est drôle pour moi de te l'entendre dire parce que j'ai vécu 10 ans où tu disais que l'or était la chose la pire à voir. Et autre temps, autre mœurs. Hein,
c'est autre temps, autre mœurs. Mais c'est pas ça. C'est qu'à l'époque, si tu veux, on avait des banquiers centraux raisonnables. Mmh. Donc tu faisais mieux en mettant ton argent en cash en dollars ou en euros qu'en le mettant dans l'or. Ben, depuis 10 ans, c'est plus vrai. Tu fais beaucoup mieux que l'or que si tu as mis en cash ou en euros. Quoi. L'or est quand même passé de 300. Ouais, c'était en 1998, à peu près il était à 300 par là, ou 250. Ben, aujourd'hui, on vient de casser 2000.
Oui.
Bon, ben, vous avez fait 7 fois votre mise, vous l'avez toujours acheté trop cher. Hein.
Alors, je cherchais désespérément une question qui était sur... Ah si, c'est ça, les cycles de Kondratiev. Il y a 2 questions qui sont un peu imbriquées, en ce qu'elles te demandent un peu la façon dont tu réfléchis. C'est-à-dire, le premier te demande, vous avez fait un jour un papier sur la monnaie à détenir dans un portefeuille et vous l'avez ajusté par rapport au taux court. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous l'avez ainsi adapté?
Oui, ça c'est facile. Vous vous dites, bon, le franc suisse est une très bonne monnaie. Donc, je vais mettre mon argent en francs suisses, dans ma banque. Mais, comme c'est une très bonne monnaie, elle paye 0% de taux d'intérêt. D'accord ?
Mm-hmm.
Elle ne te paye rien. Par contre, la livre sterling, ce n'est pas une bonne monnaie. Hein, ça n'a pas l'air payée depuis très longtemps. Mais elle te paye 7% de taux d'intérêt. Par an.
Ah bon ?
Mais, mettons aujourd'hui. Ouais. Ou 6 ou 5, ça n'a pas d'importance. Okay. Le chiffre n'a pas d'importance. Mettons 5, allez. Donc... Au bout d'un an.
Tu as les intérêts sur ta livre que tu n'as pas.
Voilà. Donc, si le franc suisse n'est pas monté de 5% contre la livre, tu aurais mieux fait d'avoir de la livre.
Oui.
Et donc, c'est pour ça que j'ajuste toujours les taux de change.
Tenant compte des taux courts.
En tenant compte des taux courts, parce que comme ça...
Tu as les taux réels. Enfin, tu as ce que taux, ça délivre.
J'ai ce que j'ai à la fin de la journée, quoi. Et comme ça, vous voyez que, si vous prenez... du franc suisse et de la livre, et du dollar, sur 20 ans, ils font tous pareil, ajustés pour les taux d'intérêt.
Et j'imagine que tu fais pareil quand tu compares une monnaie, action, et que tu compares des actions, et tu le fais avec dividendes réinvestis.
Ben voilà, quand j'ai fait mes actions dividendes réinvestis, je compare toujours, je divise par la monnaie, le taux de change, mais dans lequel je rajuste les taux courts, de façon à ce que je compare... les rentabilités totales des deux. Quand je mets rentabilité totale, c'est que j'ajuste.
D'accord. Oui, je savais pas, tu vois, c'est comme quoi on en apprend tous les jours.
Oui.
Et Lyssen te demande aussi, dans ton explication des cycles, il dit, en somme, les explications et le cheminement de son raisonnement, de Charles, s'apparentent à la notion de vague de Kondratiev, est-ce un hasard? Et est-ce que tu appliques cette notion de cycle à tout notre monde contemporain?
C'est ce que j'ai essayé de dire au départ. C'est qu'en effet, il y a des cycles. Vous savez, j'ai raconté toujours l'histoire du gars qui s'endort en 1793. et qui se réveille en 1820, il comprend rien. Vous endormez en 1893, vous réveillez en 1920, vous comprenez rien. Et vous endormez en 1993 et vous réveillez en 2020, vous comprenez rien. Bon, l'Union soviétique a disparu, etc. Bon. Et donc, il semble bien que les institutions humaines sont ainsi faites qu'elles ont, de façon stable, un cycle qui est à peu près 70 ans de stabilité et 30 ans de merdier.
Oui, mais c'est ça. Alors, parce que, quelquefois, tu as des cycles dans des cycles.
Voilà.
C'est un peu la vache qui rit. Parce que, prenons là ce cycle de 70 ans, 30 ans. À l'intérieur de ce cycle, tu peux avoir aussi, par exemple, comme en Chine, un cycle à la Haftalion. C'est-à-dire un cycle de croissance.
Tout à fait. Alors,
tu as plein de cycles qui peuvent être imbriqués.
À l'intérieur. Ben, dans le 19e, il y a des tas d'études là-dessus. Bon, il y avait Kondratiev. Bon, le pauvre vieux, il a terminé quelque part en Sibérie, pendant les années staliniennes. Mais enfin, il disait que lui, le cycle, c'était à peu près 45-50 ans. Et puis à l'intérieur de ça, il y avait ce qu'on appelait des cycles de Juglar, qui étaient à peu près 10-12 ans. Puis il y avait des cycles de Kickspin, ou un nom comme ça, qui étaient à peu près 3-4 ans. Donc, au 19e, ils ont essayé, en effet, de faire la vache qui rit, de voir le physique pour essayer. Mais... Depuis on a inventé le PC, etc., c'est des notions qui sont devenues complètement... qui n'intéressent plus personne. Et donc, tout le monde veut faire des calculs exacts, prévoir le futur. L'économie au 19e, tout son boulot, jusqu'en 50, c'était de comprendre. C'était pas de prévoir. C'était de comprendre ce qui marchait vaguement. Et depuis, on a transformé les économistes en Madame Soleil. Ils sont censés prévoir et donner les mesures qui vont permettre d'optimiser la croissance.
D'où le fait aussi que l'économie soit devenue une sorte de mathématique appliquée et de plus en plus les économies des prix sont des économies, enfin sont des économistes mathématiques avec des formules appliquées, qui n'expliquent pas, c'est illisible pour le commun des mortels.
C'est illisible et ça n'a aucun rapport avec la réalité, ça marche pas. C'est-à-dire qu'ils ont fait une espèce de truc dans un coin, ou si j'ose dire, ils se masturbent tous en commun, mais ça n'amène à rien.
Avec une râpe à fromage.
J'espère pas pour eux. J'espère pas pour eux, mais pour les autres, c'est certainement une râpe à fromage. Donc,
tu pouvais lire quand Friedman a eu le prix Nobel d'économie, c'est tout à fait lisible pour le commun des mortels.
Absolument.
Tu prends un prix Nobel d'économie actuel, tu te pends haut et court.
Ah non, mais il y a des formules mathématiques à la noix partout, c'est tous des mathématiciens ratés.
Tu ne peux pas le lire.
Non, le lire, c'est incompréhensible.
C'est des fausses
médailles Fields. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que j'ai vu. C'était une étude qui avait été faite il y a une dizaine d'années sur les thèses de PhD, donc de doctorat d'économie qui étaient faites dans les grandes universités américaines. Tu prenais la démonstration et à peu près une fois sur deux, le type trichait. C'est-à-dire qu'il donnait des résultats comme s'ils étaient acquis et en fait, il avait fait une bidouille pour que ça passe. Donc, tu vois, mais personne n'avait vérifié, parce que, dans le fond, le type qui lisait la thèse, il ne comprenait pas plus que lui. Donc, tout ça, ça fait partie de ce que j'appelle ce monde irréel qui s'est créé et qui travaille plus les pieds dans la gadoue, quoi. Tu vois, c'est vraiment... On est dans un monde éthéré, mais qui ne veut rien dire.
Alors... Sébastien te demande, bonjour Charles-Emmanuel, comment expliquer que les bourses mondiales explosent des records alors que l'économie mondiale est plus que morose? Est-ce un bull market avant un crash? Quels indicateurs pourraient nous confirmer de vendre nos actions avant la chute?
Oui, mais ça j'en ai parlé, c'est l'histoire du fait que s'il y a trop de pognon dans le système, je vais raconter encore cette histoire parce qu'elle est vraie. Vous avez 20 ans en 1920, vous êtes en Allemagne. Vous avez survécu à la Deuxième Guerre mondiale, vous avez du pot, et vous devez vous faire votre retraite pour 1960, 40 ans plus tard. Bon, vous achetez des obligations, ça va deux fois à zéro, donc tu perds tout. L'immobilier, il est bombardé, il ne reste rien. L'or, on te met dans un camp de concentration et on vient de le chercher dans ton matelas. Tu t'achètes Deutsche Bank, Mercedes et je ne sais pas quelle autre action allemande, IG Farben, qui était la grande société. Et tu prends ta retraite tranquille. Donc, si les gens se disent, ce que j'ai dit, c'est qu'on rentre peut-être dans un camp dans un temps où on va ruiner les obligataires et au risque d'avoir des guerres.
Des actions pérennes à vision longue, telles Bayer ou Air Liquide, Nestlé, L'Oréal.
On sait qu'ils sont sans doute là Procter, parce qu'ils sont bien gérés et parce qu'ils sont bien gérés et qu'ils ont l'habitude de ce genre de choc et qu'ils sont partout dans le monde. Donc tu te dis, cela, ça va monter, ça va baisser, mais dans 20 ans, ça sera. Ça vaudra toujours quelque chose.
J'ai une petite question. Pourquoi tu cites jamais Airbus et Michelin ?
Airbus, parce qu'il n'y a que l'État là-dedans.
Bah oui, c'est le problème.
Et Michelin, c'est parce qu'ils sont beaucoup dans les bagnoles. Et j'ai pas une passion pour les bagnoles.
À l'époque, tu faisais la différence entre Dassault et Dassault Systèmes.
Oui,
et...
Dassault Systèmes, c'est vraiment. Dassault, ils ont leurs clients. Ils font de très bons avions, Dassault. Les avions de chasse, c'est sans doute les meilleurs au monde. Et le rapport qualité-prix, c'est le meilleur. Mais Dassault Systèmes, c'est vraiment de l'aide informatique à la prise de décision dans les sociétés, etc. Et ça, c'est une très belle société aussi.
Ça, c'est là, une belle société, Dassault Systèmes.
Très belle système, c'est très bien. C'est...
Parce que tu l'as recommandé pas mal à l'époque, mais tu l'as pas mis dans le top 10. Parce que les gens posaient des petites questions, genre, si on cherche à se diversifier un peu...
Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dans les 10. Ils peuvent choisir leurs 10 à eux, si j'ose dire.
Elles sont assez chères. C'est pour ça qu'ils cherchaient des actions à l'unité, peut-être moins onéreuses.
Mais les gens peuvent choisir 10 autres actions, à condition que l'État soit nulle part présent.
Voilà. Donc, et que ça soit vraiment une société avec un truc...
Qu'on comprenait ce qu'ils font.
Voilà.
C'est moi
avec une visibilité à 30 ans. C'est-à-dire, on ne va pas arrêter demain.
Pernod Ricard, je comprends.
Oui.
Vois, parce qu'on sait tous en train
de BDQ. On comprend en début de journée, en tout cas. Fin de journée, on comprend moins ce qu'ils font.
On comprend moins bien. Donc, il y a des trucs comme ça, je comprends. Dassault Systèmes, je sais qu'ils sont très, très bons, mais ils font des trucs qui sont quand même pour les gens très, très intelligents. Donc,
oui, mais ce n'est pas grave. On comprend ce qu'ils font.
On comprend ce qu'ils font, oui.
En début de journée, pareil. Oui, alors il y a Pascal qui a un petit peu peur et qui dit, mais enfin, moi, acheter des obligations chinoises alors qu'il y a un risque important pour Pascal de confrontation militaire entre la Chine et les États-Unis dans la prochaine décennie.
Sûrement pas.
Bah, nous pensons pas du tout qu'ils risquent pas du tout de se taper sur la gueule. Hein.
Mais pour une raison très simple, c'est que les États-Unis ont quasiment plus d'armées.
Et déjà, oui.
Donc, ils ne réussissent plus à trouver des gens. Puis
ils
ceux
ont plus
qui
de trouvent, sous.
Ils ont plus de sous pour les payer.
Et les Chinois sont absolument pas belliqueux, hein, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire.
Et puis surtout, vous faites tout le rigoler.
Ils veulent faire du commerce, hein, ils ont rien à foutre du reste.
Du commerce, et puis par exemple, ils vont envahir Taïwan, mais bon, réfléchissons deux secondes. Vous êtes la Chine, vous pouvez envahir Taïwan, toutes les usines sont dynamitées, et à ce moment-là, l'économie mondiale s'arrête parce qu'il n'y a plus de semi-conducteurs. Donc, est-ce que la Chine gagne dans ce coup-là ? C'est pas certain. Je vois pas ce que les États-Unis gagnent non plus. Donc, qu'est-ce qui est le moins cher pour la Chine ? C'est d'aller voir les types qui travaillent chez TSMC ou je sais pas quoi à Taïwan et leur dire, dites les gars, vous êtes payés là 150 000 dollars par an. Si vous venez à Shanghai, vous aurez un très bel appartement, on vous paye 500 000 dollars, vous aurez une voiture et puis vous...
Des belles femmes.
Les 500 000 dollars vont de côté aussi, ça. Ouais. C'est... Et donc...
Et vos Chinois, enfants iront dans des bonnes écoles.
Et vos enfants iront dans les bonnes écoles. Et vous ferez partie
de
l'élite.
Du top 1%.
Voilà. Et ce que j'essaye de dire, c'est que les Chinois ont compris il y a très longtemps qu'il valait beaucoup mieux acheter des gens que leur faire la guerre. C'était beaucoup moins cher. Et par exemple, quand ils avaient les gens qui l'emmerdaient, qui arrivaient les Mongols et tout, ils payaient des sommes considérables aux chefs mongols de l'autre côté de la frontière jusqu'à Gengis Khan pour qu'ils ne viennent pas leur casser les pieds. Tu vois, c'était...
Arthur Couillère.
C'est tout à fait ça.
Donnez-moi les femmes.
Donc, il y a Gengis Khan qui n'a pas respecté. Bon, qui est, bon. Mais ensuite, ils ont eu Gengis Khan comme empereur et ça ne leur a pas fait grand-chose. Hein, ça ne les a pas changés. Donc, la Chine absorbe assez facilement tous ceux qui veulent la conquérir. C'est, voilà, donc... Donc moi, je ne me fais pas trop de soucis pour la guerre. Par contre, je savais que les États-Unis voulaient d'abord se payer la Russie. Et une fois qu'ils seraient payés la Russie, ils allaient se payer la Chine, disaient-ils militairement. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'à partir du moment où les Chinois ont compris et les Russes ont compris que la Russie et la Chine se sont alliés et que les prendre les deux à la fois, ça va être dur. Hein.
Oui.
Surtout que les Américains ne réussissent pas des masses avec la Russie en ce moment. Tout stratège militaire, c'est qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas faire dans l'histoire militaire. La première, c'est envahir l'Afghanistan. Et la deuxième, c'est envahir la Russie.
Et ils ont fait les deux, avec une conscience et une pugnacité.
Il y a des gens que tu ne vas pas emmerder. Quoi. C'est,
Remarque, non pas que le Vietnam ait été un franc succès non plus. Hein.
Mais les Vietnamiens aussi, ça a toujours été des... Par exemple, les Vietnamiens, les Chinois ont essayé de les envahir deux ou trois fois parce qu'ils avaient une frontière commune. ils ont pris des branlées terribles. Donc les Vietnamiens, c'est pas des gens que tu envahis comme ça non plus. Enfin, il y a des pays qu'on va pas chercher, quoi. Me semble-t-il.
Oui, il est certain. Quelqu'un te pose la question, j'ai deux petites questions encore. Si dans ces temps troubles, ce serait intelligent d'ouvrir un compte dans une banque suisse pour protéger nos petites économies, par exemple chez Swissquote,
oui.
Sachant que bien entendu c'est toujours une possibilité, mais il faut le déclarer. Hein,
toujours. Oui, hein. Il faut que ce soit tout à fait officiel.
Voilà, mais en tout cas, tout Français peut tout à fait ouvrir un compte suisse, enfin un compte en Suisse.
En Suisse ou dans la City. Ou
ça sera un compte étranger, comme des étrangers peuvent ouvrir des comptes en France. Oui, c'est un compte étranger.
Alors moi, par exemple, j'ai mes comptes, je donne mon exemple, à la Société Générale à la Société Générale au Luxembourg, qui est une filiale, c'est une espèce de trust, qui a un capital à elle, indépendant de la Société Générale, d'à peu près 1 milliard d'euros. Donc, c'est...
C'est là où tu as ton assurance-vie.
C'est là où j'ai mon assurance-vie. Parce que là, ils ont un capital suffisant, même si la Générale... Ils sont indépendants au capital de la Générale, donc même si la Générale venait avoir des gros problèmes... Ils ont leur capital à eux, donc ils sont.
Il y a un écran juridique et eux, ils ont leur
capital. Donc vous trouvez des trucs comme ça en dehors de France qui sont bien.
Voilà, donc à regarder. Et enfin, la dernière question de Romain que l'on prend en ouverture. Bonjour Monsieur Gave, pourriez-vous me donner quelques précisions sur les évangiles? Pour vous, lequel des quatre est le plus intéressant?
Alors là, c'est une question très intéressante. Encore. Je vais vous répondre comme ça. Si vous voulez, du point de vue. Théologique, mystique, etc. Le plus extraordinaire, c'est celui de Jean. Parce qu'il ne raconte pas tellement l'histoire du Christ, mais il raconte ce qu'il a compris du Christ. Donc il y a une espèce de... Donc celui de Jean, pour moi, c'est lui, vous savez, cette phrase fameuse, au début était le Verbe, et le Verbe, etc. Et donc c'est un évangile très, très puissant. Le Jean en question, c'était tout sauf un âne, c'était certainement un grand lettré. Le disciple que le Christ préférait, bon. Et puis l'autre, j'aime bien l'évangile de Marc, parce que c'est sans doute celui qui a été dicté par Pierre, qui était sans doute le plus con. Tu vois, Pierre, c'était le type, le Christ adorait, mais il comprenait rien, il comprenait une fois que ça s'était passé, ensuite il pleurait.
Enfin, c'était le DAF, quoi.
C'était le DAF, mais c'était un brave gars, mais qui était fait pour commander, mais pas pour comprendre. Si je veux dire, Jean... Quand les gens parlaient, ils ne devaient pas trop bien comprendre ce qu'ils disaient. Tandis que Pierre, on comprenait parce que c'était un brave gars, quoi. C'était, voilà, c'est donc moi, Marc, c'est sans doute le plus proche de Pierre. Et Jean, c'est sans doute le plus proche du Christ.
D'accord.
Voilà.
Donc voilà, hein, la question était posée. Voilà la réponse de Charles. Voilà, écoutez, j'espère que toutes ces petites réponses à vos questions posées sur... j'ai pris en grande partie les questions qui étaient posées cette fois-ci sur YouTube, histoire de... voilà. Et...
Mais je suis surpris et très impressionné, favorablement.
T'es déçu en bien.
Je suis déçu en bien par la qualité des questions qu'on a eues cette fois-ci. Je trouve ça... Ça me fait plaisir.
Ça te met du poil aux pattes. Ben écoute, je suis contente que ça te rende heureux. Ça veut dire que moi, je trouve aussi, j'ai l'impression, en faisant un bilan de compétences, que les niveaux ont monté.
On n'aurait pas eu ces questions il y a 5 ans.
Et voilà. Et ça fait plaisir de se dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Voilà, et que les gens comprennent et bâtissent avec ce qu'on leur dit. Ils bâtissent leur compréhension, ils montent. Et c'est très bien.
Voilà,
très
donc
content.
Si vous n'osez pas encore poser vos questions, faites fi de votre timidité, n'hésitez pas. Et encore une fois, on va vous tenir informés au fur et à mesure de nos développements, on commence à faire ça cette semaine, de notre université, de nos masterclass Charles Gave, et de la façon...
L'idée est assez simple, comme toujours, c'est au début, on vous a expliqué pourquoi il fallait le faire, et les questions prouvent qu'on a eu raison. Et maintenant, on va essayer de vous expliquer comment il faut le faire.
Voilà.
C'est la deuxième partie. Mais le temps est arrivé peut-être de passer au comment.
Oui, et puis je pense que aussi il va falloir donner maintenant, le temps aidant, des clés peut-être plus pratiques parce que les gens les demandent et tu pourras pas toutes les donner, mais on va faire venir des experts aussi par exemple sur des questions comme le Bitcoin. Très souvent vous posez à Charles des questions sur le Bitcoin, mais encore une fois Charles pense que c'est une redoutable façon de contourner un système monétaire qui est un peu voilà. Mais au-delà de ça, il a pas de compétences particulières. on a reçu ici Alexandre Stachenko, ouais. Sébastien Grospirou, comme je dis, ou même Richard Détente. Et j'espère que peut-être on pourra les faire revenir pour travailler avec nous sur des modules, puisqu'on va faire des modules intégrés de masterclass sur ces questions du Bitcoin. Mais Charles, malheureusement, n'a pas véritablement de valeur ajoutée sur ces sujets-là. Didier, peut-être plus, déjà.
Didier, pas mal. Moi, tout que j'essaye de faire, c'est de voir si cette monnaie, parce que c'est une forme de monnaie, c'est très intéressant d'ailleurs, s'il peut exister une monnaie qui ne soit pas supportée par un pouvoir étatique, et la réponse, il y en a une, c'était l'or, mais si c'est en train de devenir, pour des raisons physiques, comme, est-ce que c'est en train de devenir un substitut à l'or aussi? Et pour moi, ce serait la première fois qu'on réussirait à créer une monnaie indépendante d'un État et qui soit en concurrence avec l'or. Donc c'est rigolo parce que ça amène de la concurrence à l'or. Je vois très bien ce qu'ils cherchent à faire, je ne sais pas s'ils vont y arriver.
Alors, et on finira sur cette note. Vous savez, nous vous avions parlé d'une grande conférence qui était à Londres, la conférence de l'ARC, qui était menée par un ami de Charles, qui s'appelle Paul Marshall, qui a extrêmement bien réussi, qui s'occupe d'un journal qui s'appelle Le Spectateur, qui a une chaîne de télévision un petit peu à la manière...
Ça s'appelle GB... News.
Voilà, un peu à la manière de Bolloré.
C'est CNews.
C'est CNews, donc un peu à la manière de Bolloré. Eh bien, je vous le donne à mille. Est-ce que vous savez ce qui se passe cette semaine? Il est auditionné au niveau étatique les instances...
Ofcom, qui est l'équivalent de...
De l'ARCOM, pour les prises de position trop jugées trop conservatrices et ou trop libérales de sa chaîne. C'est quand même incroyable de constater qu'à un niveau européen, au même moment
les deux grands CNews et GB News sont attaqués de la même façon par les mêmes corneaux.
Et pour autant qu'on sache, peut-être que ça se passe en Hollande et on n'est pas au courant, peut-être que ça se passe en Pologne,
en Allemagne,
j'en sais rien. Donc il y a visiblement... Alors là, pour le coup, je fais ma complotiste, mais allons-y. En tout cas, là, ce sont des faits, donc on ne peut pas dire que je suis complotiste. CNews est en train d'être interrogé par l'ARCOM et son pendant britannique est en train de faire exactement la même chose à la chaîne qui est son pendant exactement en Grande-Bretagne. Donc, force est de constater qu'il y a quand même une similitude des temps...
D'un jour à l'autre, à être mis en prison.
Voilà, donc Charles devrait être en garde à vue d'ici mardi prochain.
C'est pas impossible.
On va faire une quête. Voilà, écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous dit à la semaine prochaine. Mettez des pouces si vous écoutez les podcasts. Faites-nous plaisir, passez juste sur YouTube de temps en temps pour visionner, parce que vous ne nous faites pas de sous sur les podcasts. Vous ne nous faites pas d'argent. On fait ça pour être gentil, mais ça nous coûte des sous de mettre des podcasts. Voilà, on vous embrasse, on vous aime très fort, on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt.
Merci beaucoup.